Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue aux auditeurs et auditrices qui viennent de nous rejoindre. On espère que vous avez apprécié l'écoute du Coran. Il est 20h39. Une petite information pour la semaine prochaine, donc pas d'émission prophétie, car c'est les universités populaires et citoyennes de Roubaix qui font leur conférence mensuelle. Donc il y aura une conférence effectivement sur En attendant l'emploi, changer de travail. Et c'est donc vendredi prochain, 2 décembre à 20h, avec Bernard Gazier, qui est économiste, auteur de Tous sublimes vers un nouveau plein emploi aux éditions Flammarion. Donc l'entrée est libre et bien sûr ça sera retransmis en direct sur Pastel FM. Le lendemain, de 9h à 13h, donc, il y aura un séminaire de réflexion, donc séminaire de l'équipe de recherche Action sociale, travail, insertion, ouvert à tout le monde, co-inscription auprès de l'Université populaire et citoyenne. Donc le lieu de la conférence, donc je rappelle que c'est gratuit, ce sera au pôle ressources jeunesse D-Shepper, ça s'écrit D-E-S-C-H-E-2-P-E-R. L'adresse, quoi qu'il en soit, c'est le 50 rue Sébastopol à Roubaix. 50 rue Sébastopol à Roubaix. Vous pouvez y accéder par le métro, la ligne 2 et à grande place. Donc vous arrêtez là et donc voilà. Donc ça sera la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas vous déplacer, écoutez Pastel FM 99.4. Donc aujourd'hui on va commencer l'émission inchallah avec Hassan qui est avec moi. Salam alaikum Hassan.
Wa alaikum salam.
Donc aujourd'hui on va parler de la sincérité et l'hypocrisie, sachant que notre antenne est ouverte. Vous pouvez intervenir à tout moment 03 20 73 59 00 si vous avez des questions.
Bismillah alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la sincérité, la bonne intention et l'hypocrisie, des choses qui ne peuvent être mariées, qui ne vont pas ensemble, parce que s'il n'est pas un croyant sincère d'être hypocrite ou d'avoir des élans d'hypocrisie. L'hypocrisie doit être combattue dans nos cœurs, et on doit essayer de développer nos bonnes intentions, les affirmer, les confirmer. L'islam, comme toutes les religions, est basé sur la sincérité. Un acte ou une parole, un geste qui n'est pas fait, qui n'émane pas du cœur sincère, n'est pas accepté. C'est une règle, Dieu dit dans le Coran, « يَوْمَ لَا يَلْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » Le jour où ni les biens, ni les proches parents ne nous seront d'aucune utilité. Seul un cœur sain, et un cœur sain, explique les savants, c'est le cœur sincère. Le cœur dans lequel il n'y a pas des taches d'hypocrisie. Seul celui qui a ce cœur saint sera sauvé. Pourquoi ? Parce que il a adoré Dieu comme il se doit. Quant à l'hypocrite, sachez que il aura la pire des punitions, parce que il a trompé les gens, il a voulu tromper Dieu. Il a trompé les gens, il a triché sur terre, il a eu deux visages, et en plus il a osé, il s'est permis d'essayer de tromper Dieu alors que Dieu connaît le fond de son cœur, l'intérieur, ce qu'il cache. Ainsi, l'hypocrisie est le pire des défauts, l'hypocrite, la pire des créatures. Je dis dans le Coran, « Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar » Les hypocrites seront dans les sous-sols de l'enfer, les caves de l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas été courageux pour affirmer leurs convictions. Et je crois que tout être humain normalement constitué a horreur de l'hypocrisie et déteste les hypocrites. On ne les supporte pas et parce que c'est de la lâcheté.
Quand tu parles de conviction, l'hypocrite c'est celui qui ne met pas en avant ses convictions, c'est ce qu'il pense quoi, au fond de lui-même.
Non, pas du tout. L'hypocrite c'est celui qui dit le contraire de ce qu'il pense, de ce en quoi il croit. On peut très bien ne pas mettre en avant ses idées, parce qu'on a peur des réactions de ceux que l'on côtoie. On peut très bien, par ruse, taire certaines choses, en état de conflit, de guerre, etc. Mais l'hypocrite, c'est celui qui affiche le contraire de ce qu'il croit, de ce qu'il pense. Bien sûr, dans un but malsain. Pour tromper, pour tricher, etc. il est évident que celui qui est sous la contrainte et que l'on force à faire ou à dire des choses n'est pas un hypocrite puisqu'il est sous la contrainte. Dieu le dit bien, sauf illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été forcé alors que son cœur est dans la foi. Celui-là, il n'est pas hypocrite. Celui-là, il a dit le contraire de ce qu'il pense parce qu'il n'avait pas le choix. Mais si on le laissait libre, il ne dirait pas le contraire.
Et le fait de, justement de ne pas affirmer sa conviction de par un contexte, là je parle par exemple du musulman qui se trouverait dans un contexte non musulman ou
hostile.
Un contexte hostile, oui, exactement. Et le fait qu'il se tait, qu'il n'ose pas prendre parti, on va dire que ces dernières années, on en plein dedans, notamment en France. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la communauté et qu'est-ce qu'on peut dire du musulman qui n'affirme pas ses convictions, qui n'affirme pas ce qu'il a au fond de lui-même, même si ça peut bouillonner à l'intérieur, est-ce la bonne attitude, est-ce la mauvaise attitude, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suppose qu'il doit y avoir quand même énormément de doutes, parce que tout à l'heure on parlait justement, on parle de l'hypocrisie et de la sincérité, quand sait-on justement, quand on est hypocrite ou sincère?
Primo, que l'on sache que, en tant qu'être humain, en tant que musulman, nous n'avons pas nous reprocher ou à nous flageller lorsqu'on n'a rien fait. Il ne faut pas tomber dans la psychose et croire que on est dans le collimateur, donc on doit avoir peur de tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Celui qui est innocent doit être en paix avec lui-même et avec son entourage. On n'a rien à nous reprocher, on n'a pas à nous justifier. Maintenant, il est évident que parfois on se retrouve dans un milieu hostile. Et l'intelligence veut que justement cette hostilité soit combattue par une ruse qui a pour objectif de contourner l'obstacle. C'est le but. Alors, on a quelqu'un qui est hostile, donc on sait très bien que l'affronter de face à face, on est perdant. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut contourner l'obstacle. C'est là où la ruse intervient, l'intelligence, la finesse, le calcul intervient. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. On est dans une situation de conflit, d'hostilité, et on doit s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Et c'est vrai que beaucoup de musulmans, à cause de toute cette islamophobie ambiante, sont tenus de se faire discret pour éviter de perdre certains privilèges ou parce qu'ils ont des objectifs nobles à atteindre. Et s'il n'y avait pas de discrétion, il serait éliminé, il serait mis sur la touche depuis longtemps. Donc on n'est pas obligé d'afficher ouvertement ses convictions religieuses ou politiques. Deuxièmement, les afficher quand on sait que ça va avoir des conséquences négatives. Négatives, c'est pas intelligent. Mais c'est pas la règle. La règle, c'est que on n'est pas dans un climat d'hostilité, donc on n'a rien à nous reprocher, donc on reste naturel. On reste naturel. Mais on n'a pas à condamner ou à reprocher à quelqu'un un comportement, un geste, une tenue, lorsque il a estimé à son niveau que c'était nécessaire. Et ça, vous avez un exemple clair dans le Coran, dans la sourate, Ghafir, le pardonneur. Cette sourate a un second titre qui s'appelle Le croyant de la famille de Pharaon. Il y avait dans l'entourage de Pharaon deux croyants, son épouse Asiya, qui elle a affiché sa foi, ça s'est terminé par son exécution, et un second croyant qui lui a caché sa foi. Donc il faisait partie des conseillers, des proches de Pharaon. Il croyait en Moïse, croyait en Dieu, le prophète Moïse, mais il ne l'a jamais fait savoir. Et ça, ce comportement, puisque Dieu le cite dans le Coran, il est positif, mais il s'est tellement bien comporté que c'est lui qui a sauvé Moïse. Parce que Moïse, par inadvertance, a bousculé un Égyptien, un copte, qui est décédé. Sa tête a été mise à prix. Il était recherché par la police pharaonienne. Et c'est ce croyant qui est aisé, qui cachait sa foi, qui l'a averti. Donc après une réunion secrète du ministère de l'Intérieur qui a décidé d'arrêter Moussa et de le mettre en prison et de le condamner, qu'est-ce qu'a fait ce croyant? Il est allé avertir Moussa alayhi salam qui a fui, qui a quitté. Donc je pense que chaque musulman est assez mûr pour adopter le comportement qui va lui éviter des complications sans pour autant renier sa foi. Il y a de la souplesse, alhamdoulilah, c'est de l'intelligence, tout simplement. C'est de l'intelligence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on prétend toujours que chacun est libre de croire ce qu'il veut, de pratiquer sa religion. Mais regardez, les musulmans aujourd'hui sont tenus parfois à dire le contraire de ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur. Donc on vire vers quoi? Vers une société où toute une partie de sa population est tenue à ne plus rester elle-même, à ne plus être naturelle, à ne plus être normale. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on refoule et on crée des crispations. C'est pas intelligent. Il vaut mieux laisser les gens libres, dans le cadre de la loi, bien entendu, et s'exprimer, faire ce que bon leur semble, tant que ça n'a pas d'incidence négative sur les autres. Donc, ce n'est pas de l'hypocrisie que d'agir avec intelligence. Par contre, c'est de l'hypocrisie que de dire le contraire de ce que l'on pense sans qu'il y ait de contraintes, sans qu'il y ait cette pression. Alors, pourquoi est-ce que des gens, alors, deviennent hypocrites lorsqu'ils ont des objectifs à atteindre et ils ne sont pas capables de les atteindre en restant naturels, tout simplement. Ou lorsqu'ils craignent les représailles, qu'ils ne sont pas capables de se battre, de repousser l'ennemi. Et ça, ce n'est pas digne d'un musulman. Le musulman n'utilise pas ce proverbe satanique qui dit « le but justifie les moyens ». Non, les moyens doivent être nobles comme le but. Dieu n'a pas besoin de la croyance des croyants, encore moins de l'hypocrisie des hypocrites. Dieu nous a demandé de l'adorer dans la sincérité. Ils n'ont reçu d'ordre que d'adorer Dieu dans la sincérité. Si on ne l'adore pas dans la sincérité, ça ne sert à rien du tout. On perd notre temps. Que ce soit les paroles, que ce soit les croyances ou que ce soit les actes. D'ailleurs, l'hypocrite qui pense tromper Dieu sera trompé le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les trois premières catégories de personnes qui vont aller en enfer sont des savants, des martyrs et des généreux. Le savant, heureux, pensant qu'il était le meilleur avec tout ce qu'il a fait comme bien sur terre et qu'il allait entrer au paradis, sera ce jour-là déçu puisque Dieu dira aux anges, mettez-le en enfer. Il prendra sa défense et les anges prendront sa défense car les anges jugent par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et Dieu leur dira, il a fait cela, tout ce qu'il a fait sur terre, il l'a fait pour atteindre un objectif qui était la gloire, la renommée. Et il a atteint son objectif. Donc il a été récompensé sur terre. Il a eu ce qu'il voulait. Il a semé, il a récolté. Pourquoi alors veut-il aujourd'hui une récompense qu'il n'a pas cherchée? Qu'il aille en enfer puisqu'il n'a jamais cru au paradis. Il n'a jamais voulu aller au paradis puisqu'il n'a rien fait pour y aller. Regardez, il a trompé et il sera trompé ce jour-là. Et il pense s'être trompé, mais ça ne marche pas. Même chose pour le martyr qui a atteint ce degré en pensant que c'était bon, il allait être sauvé. En fait, il va en enfer. Parce que son geste n'était pas animé par la volonté de plaire à Dieu. Le généreux aussi qui donnait pour être montré du doigt. Donc, l'acte en lui-même ne suffit pas. D'ailleurs, l'acte n'est pas accepté, n'est pas reconnu comme étant valable ici, il n'y a pas eu au préalable dimension spirituelle qui est la sincérité. Pour ça, le hadith, il est précis, il est clair, il est simple. Il dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Dieu ne regarde pas vos corps, ni vos images. Donc Dieu ne regarde pas votre aspect extérieur uniquement. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde nos cœurs. Donc on peut très bien avoir un look de musulman, mais un cœur dur comme de la pierre, un cœur hypocrite. On peut très bien faire les gestes que font les musulmans, mais le cœur n'y est pas. Donc ça ne marche pas. Hein? Ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Nous, sur terre, on juge les gens en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. On ne peut pas entrer dans les cœurs. On ne peut pas les juger.
Ce qui peut paraître difficile par rapport à tout ça, c'est de, d'avoir conscience d'avoir un cœur sincère. Parce que le musulman, quand il sa vie, il avoue à Allah, subhanahu, donc à l'adoration de Dieu, mais il le fait pour ne pas aller en enfer. Donc s'il le fait pour ne pas aller en enfer, il le fait autant pour Dieu, enfin autant pour lui que pour Dieu, pour se sauver. Donc c'est là le danger. Il y a quand même danger, quoi. Il peut y avoir un piège dans le sens où il peut toujours avoir doute entre ce que je le fais pour moi, pour être sauvé, ce que je le fais par adoration, pour Allah,
Oui, la limite.
Ouais.
Alors, on va distinguer différents types d'intentions. Primo, il y a celui dont l'intention est mauvaise dès le départ. Il ne fait rien pour Dieu. Il le fait pour tout, sauf pour Dieu. Donc celui-là, il est clair et net qu'il n'est pas sincère avec Dieu. Il est peut-être sincère avec lui-même, avec son entourage, c'est son droit. Mais qu'il ne demande pas à Dieu un salaire alors qu'il n'a pas travaillé pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est dit dans un hadith qudsi, toute personne qui agira en associant dans son action quelqu'un à Dieu, alors qu'il aille chercher son salaire auprès des gens qu'il a associés à Dieu. Car Dieu n'accepte pas d'associer. Donc celui qui agit pour lui-même, c'est son problème. Celui-là, on l'écarte. Deuxièmement, celui qui agit pour Dieu et pour lui-même, les deux en même temps. Le hadith est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Ô envoyé de Dieu, le croyant qui se bat, qui meurt martyr, pour plaire à Dieu et pour la gloire. Est-il mort dans le sentier de Dieu? Non, dit le prophète. Il n'est pas mort dans le sentier de Dieu. Alors, c'est qui celui qui meurt dans le sentier de Dieu? C'est celui qui meurt pour Dieu. Il ne recherche pas la gloire. Parce que celui qui recherche la gloire ne va pas respecter la loi de Dieu. Il va désobéir à Dieu à un moment donné quand ça ne correspond pas à son objectif qui est sa gloire. D'accord? Troisièmement, celui qui a une bonne intention, qui agit pour Dieu, mais en cours de route, pendant son action ou après son action, il y trouve un plaisir personnel. Les gens l'applaudissent, les gens le remercient, et il y a une satisfaction dedans. Est-ce qu'il agit pour Dieu ou pour autre chose? Là, les savants disent que, puisque son intention dès le début était bonne, ce sentiment qu'il a après avoir agi, qui est causé, n'annule pas son action. Ça n'annule pas son action. Pourquoi? Parce que le hadith qui dit que les compliments qui sont faits aux croyants sont une avance de la récompense de Dieu sur terre. Le croyant qui reçoit des compliments sur terre, c'est Dieu qui le récompense. C'est Dieu qui lui fait des éloges à travers les croyants qui lui font des éloges. Pour le confirmer, pour qu'il continue sur ce chemin. D'accord? Donc, le problème, c'est le début. Quand l'intention est mauvaise dès le début. D'accord? Maintenant, celui qui adore Dieu doit l'adorer comme il veut, pas comme il a envie lui. Et Dieu nous a demandé de l'adorer de telle manière. Il nous a dit, voilà la récompense, voilà la punition. Donc le fait de craindre l'enfer, ce n'est pas une manière d'associer quelqu'un à Dieu. C'est de la croyance et elle est bonne. Le fait d'attendre la récompense, ce n'est pas mauvais en soi, puisque c'est Dieu qui donne la récompense, c'est Dieu qui punit.
Hein?
Tout à fait. Donc, on a dit qu'on a vu Rabbi Al-Adawiya une fois avec un seau d'eau et du feu. On l'a dit, où vas-tu, ya Rabbi? Et je m'en vais éteindre cet enfer et brûler le paradis. On lui dit pourquoi? Il lui dit pour que les gens n'adorent que Dieu. Au lieu d'adorer l'enfer et le paradis. Au lieu de craindre l'enfer, de craindre. En fait, non. C'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit, si on le prend à la lettre. Dieu, dans le Coran, il dit à propos des prophètes, les prophètes implorent Dieu par crainte et par espoir. Par crainte d'aller en enfer, espoir d'aller au paradis. Ce sont des prophètes. Le prophète demande à Dieu le paradis, et il demande à Dieu de préserver de l'enfer. Et le paradis, je veux dire, ce n'est que le reflet de la miséricorde divine, et l'enfer, le reflet de son courroux. Donc, attendre la récompense auprès de Dieu, c'est de la sincérité. Avoir peur d'être puni par Dieu, c'est de la sincérité. C'est pas, faut pas confondre.
Barakallahu fik. Il est 21h, donc on va s'opérer, Inch'Allah, une petite pause. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je rappelle quand même les coordonnées hein, de Pastel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au 03 20 73 59 00. 03 20 73 59 00. Salam alaikum, une petite pause et restez à l'antenne, Inch'Allah. De retour sur Pastel FM, c'est là qu'on en a l'ardé. 21h13. Donc, on rappelle l'information hein, pour la semaine prochaine, notamment vendredi, en direct sur Pastel FM à partir de 20h. Donc, pas d'émission La Prophétie, mais ce sera les universités populaires et citoyennes. Donc, en direct de Pastel sur le 99.4. La thématique, c'est « En attendant l'emploi, changer le travail ». Donc, ça se passera le vendredi 2 décembre à 20h avec Bernard Gazet, qui est économiste, auteur de « Tout sublime, vers un nouveau plein emploi » aux éditions Flammarion. C'est de son bouquin « L'entrée libre » et c'est retransmis sur Pastel. Donc, ça se passera au pôle ressources, jeunesse, des shippers. Et c'est au 50 rue Sébastopol à Roubaix. 50 rue Sébastopol à Roubaix, métro ligne 2 à la Grand Place. Vous pouvez y accéder par le métro. On reprend, Inch'Allah, Hassan, donc la thématique, c'est la sincérité et l'hypocrisie. Donc on a vu un peu le cœur dans sa sincérité et les actes qui peuvent conduire effectivement, les cœurs qui peuvent être effectivement hypocrites. Quoi.
La sincérité est tellement importante que l'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, dans son recueil de hadith authentique, commence son livre par le chapitre de la foi. Et il cite le premier hadith qu'il cite est le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par les intentions ». Et ce hadith d'ailleurs est considéré comme le hadith le plus important, le pilier de la foi, le pilier de l'islam. Et beaucoup de savants, en introduction à leurs œuvres, citent ce hadith. Ils ne commencent le livre qu'après l'avoir retranscrit pour faire comprendre au lecteur et au monde entier que tout ce que l'on fait, ce que l'on écrit, ce que l'on dit, ce que l'on ne fait pas, doit être animé par une bonne intention. Pour que ça plaise à Dieu. Et c'est vrai qu'on pardonne souvent, et on pardonne même réellement à celui qui se trompe, mais qui avait une bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le juge fait un effort, lorsque l'intellectuel fait un effort intellectuel pour trouver une solution à un problème, apporter une réponse, s'il trouve la solution, il a double récompense. S'il se trompe, il est quand même récompensé. Pourquoi ? Parce que son intention était bonne. L'erreur, ici, c'est une erreur qui est le fruit d'un effort animé par une intention sincère qui était la recherche de la vérité, de la bonne solution. Mais comme l'être humain est limité, n'est pas parfait, donc il se trompe. Donc, les actes ne valent que par les intentions. Ce hadith a été dit et argumenté par un exemple. Le hadith dit, et celui qui fait les jirs pour plaire à Dieu et à son prophète aura la récompense. Quant à celui qui fait les jirs pour se marier ou pour faire du commerce, c'est-à-dire celui qui quitte la Mecque à l'époque pour aller à Médine dans l'intention d'épouser une médinoise, parce qu'il est amoureux d'elle, ou dans l'intention de commercer, celui-là, il trouvera ce qu'il cherche, c'est-à-dire la femme qu'il voulait ou le commerce qu'il voulait. Mais il n'aura pas la récompense auprès de Dieu et de son prophète, parce que les intentions n'étaient pas les mêmes. Et ce même...
Une question, on dirait qu'on a une personne... Non. Oui, allô? Allô, allô, c'est de la voir. Oui, allô? Petit problème technique.
Allô?
Allô, on vous attend. On vous entend, il n'y a pas de difficulté.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salam alaykoum wa rahmatoullah.
Alaykoum salam wa
rahmatoullah. Pour une citation que j'ai entendue, mais qui était encore au lycée.
Oui.
Et je ne me rappelle pas, c'est de la de Yenidou. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais comme si je m'en neuf. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Et j'aimerais bien savoir si vous avez une idée. Je sais pas si. Moi, lorsque j'étais au collège, quand un imam, c'était un égyptien, c'était vraiment quelqu'un qui nous a pris. J'ai gardé ça de lui. Comme quoi, lorsqu'il avait des discours entre les musulmans, et moi j'entends dans ce que vous êtes en train de dire, j'ajoute aussi dans l'islam shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ça suffit. Et donc c'est pour signifier que la foi la farqa bayna rabbi wa taqwa. Donc ce que vous racontez maintenant, j'ai envie seulement de participer avec vous pour savoir est-ce que vous savez cette citation de...
Oui, cette citation n'existe mais pas dans les termes que vous avez cités. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man rashana falaysa minna, celui qui nous trompe, celui qui nous arnaque, celui qui triche ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire c'est pas un bon musulman digne d'appartenir à cette communauté musulmane, où justement l'hypocrisie, le manque de sincérité est condamnable. Donc vous avez tout à fait raison, ce sont des valeurs que vous avez acquises.
Bon courage.
Merci. Shukran, barakallahu. Salam alaikum.
On va reprendre une chose. On remercie notre auditeur d'intervenir et d'apporter des compléments d'informations. Donc c'est au 03 23 59 00. Vous pouvez intervenir en direct ou alors poser vos questions par écrit. Et on les retransmettra, Inch'Allah.
Les compagnons, après avoir fait les jirs, 8 ans plus tard, ils vont retourner à la Mecque. Donc il y aura ce qu'on appelle la prise, la conquête de la Mecque. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons qu'ils n'ont pas le droit de retourner dans leur demeure, puisqu'ils les ont abandonnés pour Dieu. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tente lui sera dressée, il ne retournera pas dans sa maison, puisqu'il les a délaissés pour Dieu. Donc quand on fait quelque chose pour Dieu, on le fait jusqu'au bout, il ne revient pas sur sa décision. Ça a été fait pour Dieu. Pour ça, la condition pour que les jirs soient acceptés, c'est qu'elles soient faites pour Dieu, et ne pas revenir sur ses pas. Pour cela, les compagnons qui ont fait les jirs, après la conquête de la Mecque, ne sont pas restés à la Mecque, car ils ont quitté la Mecque pour Dieu, définitivement.
Ils sont partis, c'est
un aller simple, dans tous les sens du terme. Voilà, donc ce hadith est fondamental, les actes ne valent que par les intentions. Et un autre hadith aussi, qui est magnifique, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu a dit, lorsque mon serviteur a l'intention de faire une bonne action, et qu'il l'a fait, il est récompensé comme s'il en avait fait 10. Voire 70, voire 700, en fonction de l'intention, en fonction de la qualité de son action. Plus il est sincère et plus il agit comme il se doit, plus il est récompensé. lorsque mon serviteur, deuxième cas de figure, a l'intention de faire une bonne action, qui ne la fait pas, parce qu'il n'a pas pu la faire, il est quand même récompensé, comme s'il l'avait faite. Pourquoi? Parce que son intention est bonne. À l'inverse, lorsque mon serviteur va faire une mauvaise action et qu'il l'a fait, il est compté comme ayant fait une mauvaise action. Lorsqu'il a l'intention de faire une mauvaise action et qu'il décide de ne plus la faire, il est récompensé, puisqu'il a changé d'intention. Il est passé d'une mauvaise intention à une bonne intention. Donc ce qui est important ici, c'est de toujours se remettre en question, de savoir pourquoi on fait ceci, pourquoi on ne le fait pas, pour être sincère, parce que on perd notre temps si on agit sans sincérité vis-à-vis de Dieu. On peut avoir gain de cause sur terre, mais la terre n'est pas éternelle, hein, elle est éphémère. Ce qui compte, c'est plus tard. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, profite de l'occasion lorsqu'il se dirige vers Tabouk lors d'une expédition militaire. Il dit à ses compagnons, sachez qu'il y a des gens à Médine qui ne sont pas à cet instant parmi nous, qui seront récompensés comme vous, tous les efforts que vous faites, tout ce que vous allez subir comme difficulté, sachez qu'ils auront la même récompense. Les compagnons sont étonnés. Ils sont restés à Médine, et nous, avec toute cette galère, on va être récompensés comme eux. C'est quoi la raison? Le prophète dit, la maladie les a empêchés d'être parmi nous. C'est-à-dire leur intention est quoi? Est d'être ici. Mais qu'est-ce qui les handicaps, qu'est-ce qui les retient? C'est la maladie. C'est pour ça la règle dans l'islam, c'est que celui qui agit et qui fait le bien avec une bonne intention, lorsqu'il est retenu, il ne peut plus faire ce bien, il est quand même récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie des prières surérogatoires et qui ne les a pas priées parce qu'il est malade, Dieu le récompense comme s'il avait prié. Pourquoi? Parce que l'intention est bonne. Et la sincérité est là. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a quatre types d'individus. Alors, il y a des gens à qui Dieu a donné des biens matériels, et le savoir, la sagesse. Ils font bon usage de tous les dons de Dieu, aussi bien matériels que spirituels. Ce sont les meilleurs. Il y a des gens à qui Dieu a donné des biens matériels, mais pas la science. Mais ils en font quand même bon usage. Et en plus de cela, ils n'ont qu'une intention, c'est de ressembler ceux qui ont des biens et la sagesse, ceux qui ont des biens et l'argent. Le prophète alayhi salam dit, les deux auront la même récompense. Ils ont le même niveau, ils se ressemblent. Bien que les seconds ont quelque chose en moins, mais ils ont l'intention, ils sont sincères. Et ça marche. C'est pour ça la bonne intention du croyant est sans doute meilleure que les bonnes actions de certains qui ne sont pas sincères et qui agissent bien. Donc ce qui compte, c'est la bonne intention, même si vous n'agissez pas. Une fois que vous avez une bonne intention pour faire et vous n'avez pas pu faire la bonne action, vous êtes quand même récompensé. Il y a un dicton qui dit Niyatul mu'mini ablaru min al-amal. La bonne intention du croyant est meilleure que l'action. Est meilleur que l'action qu'il a souhaité faire et qu'il n'a pas pu faire, sa bonne intention lui octroie la récompense de l'action. Quatrième type de personne, c'est une personne à qui Dieu n'a pas donné la science, mais lui a donné des biens matériels et il en fait mauvais usage. Celui-là, tant pis pour lui. Quatrième type d'individu, une personne à qui Dieu n'a donné ni science, ni biens matériels, rien. Et il n'a qu'une intention, c'est d'avoir pour agir mal. Les deux auront la même punition. Pourquoi? Parce que il est mal intentionné et il n'agit que par cupidité et avarice. Donc l'intention, la bonne intention et la sincérité, c'est essentiel. Il y a un autre hadith qui est extraordinaire, qui prouve que parfois même quand on se trompe, quand on agit, ça peut marcher quand on est bien intentionné. C'est le hadith de cet homme qui a décidé de faire une offrande, une sadaqa. et il donne de l'argent à une femme qui est connue pour la prostitution, une prostituée. Les gens l'ont vu, ils ont commencé à parler et à dire quelle action ont-ils fait. C'est pas une action que Dieu agrée puisqu'il a donné de l'argent à une prostituée. C'est arrivé à ses oreilles. Et il a imploré Dieu en disant au Seigneur, j'ai agi de cette manière, avec sincérité, récompense-moi. Il a l'air de dire, mon intention est bonne. Même si les gens disent du mal de moi, c'est pas grave. Le lendemain, il décide à nouveau de faire une sadaqa. Et cette fois, il donne la sadaqa à un homme qui est réputé pour être un voleur. Et vous avez vu que les gens ont dit du mal de lui, ils ont parlé sur son dos, ça ne l'a pas empêché de continuer le bien. Ça ne l'a pas freiné. Parce que il l'a fait pour lui, il l'a pas fait pour les gens. S'il l'avait fait pour les gens, il n'aurait pas le lendemain donné une sadaqa. Puisque celui qui fait pour les gens, qu'est-ce qu'il attend des gens? Il attend que les gens l'applaudissent. Il attend que les gens le congratulent. Et non pas l'insultent et se moquent de lui. C'est ça, un des fruits de la sincérité. C'est que celui qui fait du bien pour Dieu, il le fait quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les réactions de ceux à qui il a fait du bien, qu'il les remercie ou non, ou des gens qui sont témoins du bien qu'il a fait, qu'ils soient d'accord ou non avec lui. Il est convaincu qu'il fait du bien, il continue, rien ne l'arrête, car il ne voit que Dieu, il ne voit pas les gens. Donc il donne de l'argent, la seconde fois à qui? À un voleur. Et les gens parlent sur son dos, disent du mal de lui, ça arrive à ses oreilles, au Seigneur, j'ai fait ça pour te plaire, ne me déçois pas. Troisième fois, il fait une sadaqa à un homme qui est riche. Et les gens parlent, disent du mal au Seigneur, parce que je sois récompensé en fonction de mon intention. Et le hadith dit bien que dans ce mal en apparence, il y a un bien. Car en donnant la prostituée, elle va sans doute arrêter de se prostituer. En donnant au voleur, il va arrêter de voler. En donnant au riche, ça va lui
faire
réfléchir et il va donner. Regardez, la bonne intention donne toujours de bons fruits. Même si aux yeux des gens, c'est critiquable, aux yeux de Dieu, ça passe. Parce que tu es bien intentionné et Dieu va faire que ton acte va donner des fruits. Tu n'as rien à craindre. Donc il faut toujours être animé par une bonne intention. Alors c'est quoi la bonne intention? C'est justement chercher à plaire à Dieu. Donc pour plaire à Dieu, il faut faire ce qu'il veut, pas ce que l'on veut. Donc il faut être au courant de ce que Dieu aime, de ce qu'il déteste. Donc il faut que nos actes, nos paroles, nos croyances soient conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu.
Quand celui qui ne sait pas justement ce qui est blâmable et ce qui est au contraire encourageable, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, comment on peut le voir avec des personnes qui n'ont pas malheureusement accès au savoir et à la connaissance. Donc ils agissent des fois mal, mais leur intention est bonne.
Alors, ceux qui ne savent pas doivent faire des efforts pour savoir.
Pour savoir.
D'accord. Donc l'ignorance ne doit pas être une raison valable pour se contenter de notre peu de savoir dans la religion, en prétextant que je ne sais pas, je suis excusé. Non, celui qui ne sait pas doit apprendre. Comme celui qui ne mange pas se bat pour trouver à manger. Il reste pas sans manger. De même, celui qui est maigre en connaissance dans la religion, il doit chercher, il doit dépenser, donner de son temps, donner de ses moyens pour qu'il apprenne. Deuxièmement, c'est une question d'intention. Dieu sait très bien que cette personne a agi de cette manière avec une bonne intention et par ignorance. Donc, Dieu tiendra compte de son intention. Ça qui compte. Hein. Toujours l'intention. Même si parfois l'acte ne correspond pas à la charia, en fonction de l'intention, Dieu récompense la personne. Maintenant, Il ne faut jamais penser le contraire. Je vais faire du mal consciemment alors que j'ai une bonne intention. Ça ne marche pas. Celui-là, il est conscient que c'est mauvais. On l'a dit, le but ne doit pas justifier les moyens. Ton intention, elle est bonne, mais le moyen n'est pas bon. Mais du prétexte, l'intention, ça ne marche pas.
Hmm.
Sinon, demain, tu vas voler une banque pour donner à manger aux pauvres. Demain, tu vas te prostituer pour gagner de l'argent pour le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. On s'en sort plus.
Hmm.
Hein, tout l'illicite va devenir licite. Par contre, regardez la bonne intention, qu'est-ce qu'elle peut faire. L'histoire de cet homme, au moment où il allait mourir, il a pris peur, il s'est dit, je n'ai jamais fait de bien, si je me retrouve devant Dieu, je ne suis pas clair. Il a ordonné à ses enfants qu'on brûle son corps et qu'on disperse ses cendres à même le vent, à même l'océan. Et c'est ce qui a été fait, alors que c'est interdit. La crémation n'existe pas en islam. Résultat, il se retrouve au paradis. Dieu le questionne pour que l'on sache. Il dit au Seigneur, j'ai fait cela parce que j'avais peur de toi. Regardez, son intention, elle était bonne. Il avait peur de Dieu. Et ça l'a sauvé. À l'inverse, il y a des gens qui prient et qui s'éloignent de Dieu parce que leur intention est mauvaise. Ils ne prient pas. Dieu dit des hypocrites et lorsqu'ils se mettent debout pour faire la prière, ils traînent les pattes. Ils ne vont pas faire la prière avec plaisir. Ils ne sont pas animés par la foi. Ils ne sont pas animés par la sincérité de plaire à Dieu. Ils la font parce qu'ils regardent les gens. Ils la font parce qu'ils ont peur d'être taxés d'hypocrites. Ils la font pour se fondre dans la communauté, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu est au courant. Fawainul musallin alladina hum an salatihim. Fawainul musallin alladina hum an salatihim sahoun. Malheur à ceux qui prient, qui sont distraits dans la pratique de la prière. Car l'hypocrite ne fait la prière alors qu'en présence du public. Quand il est seul, il les néglige. Surtout la prière de la nuit, l'Aïcha, et la prière du matin, Al-Fajr. Quand il regarde des gens, il agit. Quand il regarde des gens disparaître, il réduit ses actions au minimum. Car il ne cherche pas à plaire à Dieu. Car Dieu le voit, soit en privé ou en public. Mais le regard de Dieu pour lui, il est secondaire, voire inexistant. Donc je disais, la sincérité, elle est le fruit de la bonne intention. Quand on a une bonne intention, et qu'on agit comme il se doit, avec sincérité, ça marche. Même si parfois on peut se tromper, ça passe.
Barakallahu fik Hassan, on va faire une petite pause et on se retrouve à l'antenne dans à peu près 5 minutes. Vous pouvez appeler en standard au 03 23 59 00 si vous avez des questions à intervenir en direct. Il n'y a pas de difficulté. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 21h48, on va attaquer la dernière partie de l'émission. La sincérité et l'hypocrisie. On va enchaîner, mais j'aurais une question justement sur il y a effectivement l'intention qui est, les actes ne valent que par leur intention, et le fait d'avoir une bonne intention, le fait que la personne puisse effectivement se tromper à l'ennemi dans son acte, mais si son intention est bonne, elle est comptée comme bonne. Qu'en est-il par rapport aux gens qui cherchent, notamment les savants, qui cherchent les solutions les plus adaptées à la réalité des musulmans d'aujourd'hui? Qu'en est-il par rapport à cela, étant donné que des personnes, quelles qu'elles soient, vont s'orienter vers tel ou tel savant et peuvent aussi avoir à certains moments l'attitude de condamner tel ou tel savant?
Alors ce qui est sûr, c'est que on ne doit pas porter des jugements d'intention. Ce qu'il y a dans le cœur des gens nous dépasse et nous échappe. Omar ibn Khattab, nous avons reçu comme ordre de juger les gens en fonction de ce qu'ils font et ce qu'ils disent. L'intérieur, leur cœur, c'est l'affaire de Dieu. Donc ne jamais juger quelqu'un sous prétexte que son intention est bonne ou elle est mauvaise. Plutôt la règle, c'est que tout le monde a une bonne intention, jusqu'à ce qu'il nous affirme le contraire. Deuxièmement, on doit du respect aux savants, car ce sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes n'ont pas laissé de l'argent, mais ils ont laissé le savoir. Il est évident que les savants, leur rôle sur terre, c'est de guider les gens, comme les prophètes ont guidé les gens. Ils guident les gens en les éclairant sur la religion, en leur enseignant la religion, en leur apportant des réponses et des solutions à leurs questions, à leurs problèmes. Un savant, c'est un être humain, il n'est pas parfait, il peut se tromper. Il peut aujourd'hui apporter une réponse à une question et revenir sur sa réponse le lendemain en criant haut et fort, je me suis trompé hier, voilà mon avis aujourd'hui. Vous, qui l'avez écouté, qui l'avez suivi, qui avez agi, vous êtes couvert. Et lui aussi, il est couvert, puisqu'il a fait un effort pour apporter une solution, il s'est trompé, il est quand même récompensé. Tout savant, normalement constitué, comprend la religion à la lumière de son savoir et à la lumière du vécu, du contexte. Ce qui est tout à fait logique et normal, puisque lui-même, il est le fruit du contexte dans lequel il est. Donc, l'interprétation, l'adaptation de la religion est quelque chose de tout à fait logique et normal. C'est ce qui s'est toujours fait. La preuve, elle est là. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs réponses à des mêmes questions? Non pas parce que les sources diffèrent à chaque fois, c'est toujours la même source. C'est parce que on interprète ces sources à la lumière du contexte, à la lumière de la situation de la personne. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam, a été questionné plusieurs fois, de la même façon, et il a porté différentes réponses, parce qu'il a adapté sa réponse aux personnes. Il a adapté sa réponse pour que justement sa réponse ait le meilleur des impacts sur la personne. La bonne intention, c'est elle qui donne naissance à la sincérité. La mauvaise intention, c'est elle qui donne naissance à l'hypocrisie. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate La Grotte, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de Dieu, alors qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne à Dieu dans son adoration. Ce verset résume la bonne intention et la sincérité. La bonne intention et la sincérité se traduisent par une bonne action, n'est-ce pas, et le rejet de toute hypocrisie. On ne doit pas associer quelqu'un à Dieu dans son action. Et comment accéder justement à tout cela? Il faut espérer la rencontre de Dieu. Celui qui est convaincu qu'il va rencontrer Dieu, qu'il va être jugé par Dieu, et au matoublasara'e, le jour où le secret des poitrines va être dévoilé, celui-là ne peut qu'avoir une bonne intention et agir comme il se doit. Celui qui oublie Dieu, qui oublie le jugement, qui oublie la rencontre de Dieu, son intention, elle dépend des aléas de la vie. Un jour il en a une bonne, le lendemain il en a une mauvaise. Il est sincère une fois, il ne l'est pas deux fois. La mauvaise intention peut pousser, non c'est pas elle peut, c'est, la mauvaise intention fait que l'action qui est bonne en apparence est condamnée. Une mosquée a été construite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et le prophète a ordonné que cette mosquée soit détruite, brûlée. Et la mosquée était brûlée. Donc vous voyez, la mosquée, c'est une bonne chose, mais l'intention était mauvaise. Et cette mosquée allait finir par devenir, si dans un premier temps on ne voit pas encore les conséquences négatives de la mauvaise intention, mais elle allait devenir un poison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas laissé tromper par les apparences. Et on a construit une mosquée. Il a dit non, je la brûle. Vous l'appelez mosquée, moi je l'appelle, comme je dis dans le Coran, où elle a dit la takhazu masjidan diraran. Ceux qui ont fait une mosquée pour faire du mal. C'est une mosquée, mais si on en fait mauvais usage, parce que l'intention est mauvaise, c'est du mal.
on n'accepte pas. Il y a une question à l'antenne, Inch'Allah, on va la prendre. Allô ?
Salam alaykoum.
Salam alaykoum. Salam
alaykoum. En fait, j'aimerais poser une question parce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, en fait.
Hors sujet, c'est ça ?
Oui, hors sujet, oui. C'est vraiment hors sujet. En fait, par rapport avec mon couple, en fait, ça fait 10 ans que je suis mariée. Et depuis, en fait, depuis le début, en fait, du mariage, le problème, c'est que mon mari, en fait, va souvent, en fait, au café. Et il rentre tard. Et moi, en fait, depuis que j'ai vu ça, en fait, j'accepte pas, en fait, quand il fait ça. Il fait que chaque fois qu'il rentre tard, on se dispute, je le repousse, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr.
Et ma chaquille, en fait, et ça fait 10 ans et ça dure toujours. Et lui, bon, on a tout fait, on a remis des gens, là, ils ont parlé avec lui. Il n'y a rien, en fait.
Qu'est-ce qui l'attire dans les cafés?
Comment?
Qu'est-ce qui l'attire?
C'est le fait de il dit, en fait, moi, à la maison, je mets tout, je préfère sortir et voir d'autres personnes. Et voilà, être entre les hommes, et puis jouer et tout ça. Pas comment, je pense pas, mais jouer aux cartes, au billard.
C'est l'ambiance.
L'ambiance, voilà.
Donc vous avez des enfants?
J'ai deux enfants, oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou c'est moi qui entends? Parce que le problème, c'est que ça rapporte que des problèmes. Donc,
Non, je ne vais pas porter de jugement sur votre mari parce que je ne l'ai pas écouté.
Voilà.
Je vous ai écouté, vous. Vous plaignez de l'absence de votre mari.
Voilà.
C'est tout à fait normal. Une femme ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir son mari à ses côtés. Pour lui apporter de la chaleur, de l'amour, pour partager avec elle les moments difficiles de la journée et pour qu'elle se repose en lui. Ça, c'est la logique, c'est le normal. Maintenant, bon, vous rencontrez un problème, il faut essayer de le résoudre avec beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Mais si votre mari fuit sa demeure,
Oui, il faisait ça avant qu'on se marie ici.
Ah, il continue depuis.
Voilà, oui.
Donc, c'est pas parce que.
Et plus encore maintenant, parce que bon, quand il rentre, je dors le soir et quand il vient vers moi, donc moi je le repousse, ça le pousse à le faire encore plus.
Il faut arrêter de le repousser alors, puisque ça résout pas le problème.
C'était haram, donc. Mais bon, je lui dis, c'est ça, quand moi d'un côté je pêche et puis lui d'un côté. C'est la même chose.
Quoi qu'il en soit, votre solution que vous apportez au problème n'a pas résolu le problème, donc laissez-la tomber. Cherchez une autre solution.
En fait, je sais que c'est pas la solution, mais.
C'est plus fort que vous.
Voilà.
Comme lui, c'est plus fort que lui.
Ils sont si joués, quoi. Je veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit normal, pas.
Bien sûr. Et il n'a pas d'autres amis plus sages pour le conseiller dans le bon sens?
S'il en avait franchement déjà un stage il y a longtemps, je crois qu'il aurait changé, je crois pas. Parce que moi je pense que les amis qu'il a, c'est les amis qui retrouvent là-bas.
Oui.
Parce que, attention, s'il avait des bons amis, il aurait pas, je pense pas qu'il aurait fait ça.
Certes. Tout à fait.
Moi, je voulais savoir qu'est-ce que je devrais faire. Parce que j'en ai parlé encore hier, moi j'avais pensé qu'on prend du recul. Pour qu'il puisse réfléchir, lui, de
son. C'est quoi le recul dont vous parlez? Si vous séparez momentanément?
Oui. Mais bon, lui, il n'a pas bien pris. Il l'a mal pris, en fait, quand je lui dis ça. Et moi, c'est pour justement qu'on va devoir. Moi, c'est ça, et stop, maintenant, je suis fatiguée maintenant. J'en ai marre en fait, de tout le temps répéter la même chose. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et puis, c'est du répétitif. Et puis.
Et vous avez essayé de faire intervenir des gens de votre famille et de sa famille?
Oui. Non, ça n'a rien fait du tout.
Rien?
Rien. Deux jours, trois jours après, puis voilà, il a recommencé. Et puis moi, je dis, tant que je suis mariée avec lui, de toute façon, j'accepte pas. Donc, il y a que des problèmes, et moi, je peux pas vivre avec des problèmes.
Oui.
Voilà, et puis moi, de mon côté, je pêche aussi, hein, quand je fais. Quand je repousse, moi aussi, je pêche, et je veux pas envie de faire de l'homme à cause de lui.
En fait, vous faites ça pour essayer de le rappeler à la raison?
Oui et non.
C'est pas aussi pour me venger. C'est un peu de vengeance aussi.
Voilà, c'est pas pour me venger, mais c'est plus. Moi, je suis pas tant jouée, je suis pas. J'existe aussi dans la journée, je suis là, c'est pas n'importe quel.
Tout à fait.
Voilà, je sais pas.
Il n'y a personne que votre mari écoute et respecte? Quelqu'un qui aurait de l'influence sur lui s'il lui parlait?
Non, je connais pas.
Vous ne connaissez pas? Ils n'écoutent pas Radio Pastel?
Non.
Non.
Déjà, pour écouter, il faut qu'elle soit là. C'est un neuf, qu'elle soit là, déjà.
Il faudrait que vous ayez...
Je n'ai pas envie de trop me plaindre de lui, en fait. Bon, je veux dire, c'est les défauts. C'est quelqu'un qui s'occupe, qui rapporte ce qu'il faut à la maison, nos besoins, tout ça. Il n'est pas méchant avec moi, il ne me frappe pas, il me laisse pas, je dirais, me laisse sortir, me laisse... Bon, même la religion, je dirais que c'est pas aussi.
Déjà
qu'il ne prie pas, moi c'est tout le contraire en fait, de lui, vraiment, c'est très différent par rapport à ça.
Oui.
Ce qui fait que moi aussi, même par rapport à la religion, donc c'est encore pire, c'est encore plus.
Oui. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de me dire qu'il a des qualités, il a des défauts.
Oui.
Et si vous pesez le pour et le contre, il y a
parce
plus de qualités.
Rien, en fait.
Comment ?
Je suis dans le brouillard.
Ah, vous êtes dans le brouillard.
Je regarde les qualités, je regarde les défauts et je regarde aussi après les qualités à côté. Mais moi, c'est sûr, ça, je ne peux pas vivre comme ça.
Vous ne pouvez pas.
Je peux passer encore 10 ans de plus.
Oui.
Mais tout le temps en se discutant. Tout le temps avec les problèmes. Tout le temps avec ma chéquille.
Et si vous arrêtiez de lui parler de ça ?
Oui.
Si vous arrêtiez de lui faire des reproches ?
C'est-à-dire que je mets un voile entre.
C'est ça. Vous faites comme si il n'allait plus au café. Hein, vous arrêtez de retourner le couteau dans la plaie.
Mm-hmm.
Oui. D'accord. Vous comportez normalement avec lui.
Mm-hmm.
Et ça, vous dites que bon, ça, c'est une maladie qu'il a.
Mm-hmm.
Pour l'instant, elle n'est pas guérissable. Je l'accepte comme maladie. Et puis, j'attends.
Mm-hmm.
Hein,
oui.
Peut-être que ça va le faire réfléchir ou ça va peut-être le rappeler un peu à la raison.
J'ai essayé, mais ça dure une semaine, deux semaines,
après... Il faut tenir plus longtemps.
Mais en fait, je voulais savoir, lui, en fait, les hommes qui font ça, est-ce que c'est bien ou pas?
Vous savez très bien que c'est pas bien.
Ouais, déjà, moi, je la preuve.
Bien sûr.
Je veux dire, parce que quand je lui dis ça, je me dis, non, mais de toute façon, je fais rien de mal, je vais juste voir des copains, faut pas t'inquiéter, je vais pas, en fait, voir d'autres femmes, je fais rien de mal, tu peux fermer les yeux, je dis, ouais, mais quand même... C'est pas lui qui va dormir le soir et il est seul.
Oui.
Il n'est pas à ma place en fait pour.
Tout à fait. Il n'arrive pas à s'imaginer ce que vous ressentez.
Non, c'est pas haram ce que je fais. Je me dis, je bois pas, je fais pas ça, je fais pas ça.
Il faudrait peut-être l'aider à être un peu plus musulman, à pratiquer plus la religion.
J'ai passé quelques années quand même comme lui dire, mais bon. Il n'y est pas encore prêt.
Inch'Allah, qu'il soit prêt.
Inch'Allah,
bientôt.
Inch'Allah.
Oui.
Mais je veux dire, je. Je pourrais patienter pour qu'il change, mais c'est pas vraiment facile, quoi.
Bien sûr, c'est pas facile, mais patientez quand même.
Mm-hmm.
Hein, parce qu'il a quand même des qualités.
Ouais, c'est sûr.
Et
du côté, en fait, de pas par rapport à la religion aussi.
Oui, oui, des qualités humaines, c'est déjà pas mal.
Mm-hmm, d'accord.
Oui.
Et est-ce que prendre du recul, c'est bien ou pas?
Moi, j'ai peur que ça mène à un divorce.
Ça mène?
Un divorce.
Non, ben moi je lui dis de toute façon, je pense pas du tout à ça. Je lui ai bien expliqué ça.
Le problème c'est lui après il y pense.
Ben, je lui ai dit, puis bon, il l'a mal pris, il a cru que c'était ça en fait.
Oui.
Donc d'un côté je sais qu'il pense que lui déjà il veut pas ça, il veut pas des divorces. Parce que bon, une fois il a pris du recul, en juste une journée, le lendemain il pouvait pas en fait, il est revenu tout de suite.
Ça veut dire qu'il est attaché à vous malgré tout.
Il est quand même attaché, oui. Mais il a quand même de la rancune.
Voilà. Allah yahfidak la sœur. Tenez bon. Au plaisir, Inch'Allah. Continuez à écouter Pastel.
D'accord, ça va.
Amen. Salam alaikum. On va reprendre, mais surtout on va conclure parce qu'il est 22h04 et c'est vrai
finira la prochaine fois, Inch'Allah, avec
Inch'Allah,
moi être sincère.
D'accord, barakallahu fik. Donc la semaine prochaine, vendredi, pas d'émission prophétie, c'est l'université populaire et citoyenne, en entendant l'emploi, changer le travail, conférence débat avec Bernard Gazier qui est économiste. Auteur de Tous Sublimes vers un nouveau plein emploi. Ça sera retransmis effectivement sur Pastel, c'est pour ça qu'il n'y aura pas l'émission Prophétie. Ça se passe au pôle ressources jeunesse des Shoppers.
50 rue Sébastopol à Roubaix, vous pouvez y accéder par le métro, ligne 2, à la Grand Place. Le lendemain, samedi 3, de 9 à 13 heures, il y a un séminaire de l'équipe de recherche action sociale, travail et insertion. C'est ouvert à toute personne. Et l'inscription se ferait auprès de l'Université populaire et citoyenne. Je vais vous donner simplement leurs coordonnées. C'est le 03 20 82 23 96, 03 20 82 23 96. Restez sur Pastel FM, c'est l'émission Safina, après avec les frères de JMF, section Tourcoing, donc pour écouter les chants religieux. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour nous, on se retrouve, Inch'Allah, dans 15 jours avec Ahmed Mikhtar. Inch'Allah.